Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais avoir le plaisir d'interviewer dans les studios de CFM Jean Steven. Alors vous le connaissez peut-être puisqu'il a terminé sa carrière dans notre département comme cardiologue à Caussade mais également à Montauban. Il a été médecin généraliste, il a travaillé dans les hôpitaux, donc c'est une personne compétente pour nous parler justement de cette pandémie et en particulier parce qu'il vient de sortir un livre intitulé « La pandémie du mensonge et de la peur » qui va être donc publié incessamment aux éditions Augustin de Livoy. Et donc c'est pour moi l'occasion donc de revenir vers lui, il est en face de moi, bonjour Jean.
Bonjour.
Et de lui poser quelques questions sur cette pandémie. Qu'est-ce qu'on nous a raconté comme histoire? Quel est le but de la manœuvre, si je peux dire? Alors d'abord, Jean, pourquoi avoir décidé d'écrire un livre?
Mais je me suis mis à me dire au mois d'août de l'année dernière qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce qu'on me racontait par les médias. J'avais écouté, comme tout le monde, ce qu'on disait. Mais je me rendais compte que moi, après ma deuxième injection, j'ai été dans un état épouvantable. Je me traînais, j'avais pris 10 ans, et cet état-là a duré pratiquement pendant 3 mois. Et de plus, dans mon entourage familial, parce qu'ici à Saint-Antonin, j'ai très peu de contacts, dans mon entourage familial, on me rapportait toute une série d'effets secondaires graves, des blocs auriculo-ventriculaires nécessitant un pacemaker chez des enfants, des myocardites, des thromboses, des cécités, des paralysies, et que c'était pas normal que moi, dans mon petit entourage, j'ai autant d'effets secondaires alors qu'on clamait sur toutes les ondes que ce vaccin n'avait pas d'effets secondaires importants. Voilà.
Donc l'origine, c'est d'abord une origine, si l'on peut dire, personnelle, qui vous a amené donc à gratter le vernis et à découvrir tout un ensemble de choses pour le moins curieuses sur cette vaccination. Et donc la première des questions, pour moi c'était aussi une manipulation, mais c'est vous qui allez nous en parler. Ce dogme vaccinal à tout craint dont on nous dit aujourd'hui qu'il faudrait aussi vacciner les enfants maintenant, et même les femmes enceintes, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et en même temps, de cette obligation de vacciner à tout craint et de revacciner, de cette interdiction faite aux généralistes de prescrire en cas de maladie, comme ils l'ont toujours fait. D'ailleurs, c'est, si ma mémoire est bonne, le serment d'Hippocrate. Donc, en fin de compte, deux questions dont une, pourquoi vacciner à tout prix? Et pourquoi en plus interdire aux généralistes de soigner comme ils ont toujours su le faire?
Pour moi, c'est un véritable scandale. Pour moi, les autorités politiques et sanitaires sont dans une procédure qui est criminelle, tout simplement. On sait actuellement que ce vaccin n'est pas efficace. On sait qu'il est complètement inefficace sur le variant Omicron, qu'il était déjà très peu efficace sur le variant Delta. Et maintenant, on pousse tout le monde à se vacciner alors qu'il est inefficace et de plus qu'il est toxique. On a maintenant toute une série d'effets secondaires qui sont remontés à la surface que les laboratoires nous avaient cachés et qu'on voit maintenant que c'est important quand on fait quand on multiplie le nombre de cas de décès, simplement de décès qui sont rapportés aux agences de pharmacovigilance. On sait que ce n'est que à peu près 5% des cas qui sont remontés. Si on multiplie par 20, on arrive à quelque chose comme un demi-million de décès en Europe du secondaire au vaccin, ce qui est énorme. On sait en tout cas qu'il y a plus de déclarations de décès suite au vaccin de la Covid en un an d'application que suite à tous les autres vaccins cumulés pendant les 30 dernières années. Rien que ça, c'est quelque chose qui devrait faire arrêter immédiatement la vaccination. Au lieu de ça, on nous bassine encore qu'il faut non seulement que tout le monde soit vacciné, mais aussi les femmes enceintes, ce qui a été un interdit complet de la pharmacovigilance depuis toujours. On s'est toujours dit, on ne vaccine jamais une femme enceinte. Et maintenant, on veut vacciner les enfants. On l'a déjà fait de manière très large. Et les enfants ont un risque nul avec la Covid. Donc, c'est complètement aberrant. C'est une espèce de fuite en avant de gens qui ont pris une décision, une stratégie sanitaire qui est tout à fait aberrante, mais qui ne peuvent plus faire demi-tour, surtout avant les élections. C'était très, très dangereux.
Alors, vous avez répondu à deux questions que j'allais vous poser après. Ce vaccin, il vaccine ou il ne vaccine pas? Donc, on comprend qu'un vaccin qui est fait justement pour supprimer la chaîne de contagieux ne le fait pas. En tout cas, celui-là, il ne le fait pas. Et qu'il y a une part importante d'effets indésirables, très importante. Vous avez prononcé le terme « multiplié par 20 ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il faut multiplier finalement les déclarations par 20?
Si on avait fait les choses dans l'ordre voulu par les autorités médicales et pharmacologiques, on aurait fait de la pharmacovigilance active, c'est-à-dire que les gens qui sont en expérimentation médicale et chez qui on essaie le vaccin, on les oblige à remplir un questionnaire tous les 15 jours, 3 semaines ou toutes les semaines, ça dépend. Et ils répondent activement, voilà, ma santé est comme ci ou comme ça. Ici, on a fait de la pharmacovigilance passive, c'est-à-dire qu'on a vacciné tout le monde et on a attendu que certains fassent remonter les effets secondaires au niveau de des centres de pharmacovigilance. On considère qu'un médecin généraliste qui fait ça, il perd une demi-heure de temps pour aller chercher les documents, les remplir complètement, etc. Donc, ça n'intéresse aucun médecin de faire ça. Et pour les gens, c'est encore plus compliqué parce qu'ils ne se retrouvent pas du tout dans les documents. Donc, la plupart des gens ne le font pas. Et il y a eu des études qui ont été faites par des universités pour voir quelle est la proportion. Et les chiffres varient entre grossièrement 1% et 10%. Donc, en coupant la poire en deux, ça retombe sur une grosse étude faite par l'Université Columbia où on trouve 5% des réels effets secondaires qui sont rapportés au centre de pharmacovigilance.
Donc, merci pour cette explication. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de choses. Et il y a en particulier la question de la collusion avec les puissances de l'argent et l'OMS, qui serait en quelque sorte l'Agence mondiale pour la santé, qui est une antenne, un morceau de l'ONU, si on peut l'appeler comme ça, qui serait phagocytée par un certain nombre de multinationales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, puisque c'est un des gros morceaux de votre livre?
Mais oui, moi je n'avais pas d'idée préconçue avant de commencer mon enquête, d'idée préconçue sur l'OMS. Et puis je me suis tout de même fort étonné de croiser le nom de Bill Gates absolument partout quand je cherchais des renseignements sur vaccins et OMS. Bill Gates, pour moi, c'était un marchand de software et il n'avait aucune culture médicale. Et plus j'ai creusé ce sujet de l'implication de Bill Gates dans l'OMS, plus je me suis rendu compte qu'il avait vraiment mis la main sur l'OMS et qu'il avait considéré que désormais la santé mondiale, c'était son nouveau business et qu'il a géré comme il a géré sa vente de Microsoft. Donc, cette institution en principe publique est actuellement tout à fait dans les mains d'un organisme privé. Et la fortune de Bill Gates, je crois, a doublé depuis le début de la pandémie, ou en tout cas depuis qu'il s'occupe très activement de l'OMS. Il est d'ailleurs parvenu à sortir de l'OMS les organismes principaux qui s'occupent de la vaccination mondiale. Ça lui appartient à lui, ou à la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc l'OMS n'a même plus rien à dire sur ces institutions qui s'occupent de la vaccination mondiale. C'est un gigantesque scandale de conflit d'intérêts entre le privé et le public. Mais ce n'est pas le seul.
Alors, il n'y a pas que lui, si j'ai bien compris dans le livre, c'est qu'on parle aussi de quelqu'un à qui je tiens beaucoup, c'est Warren Buffett, qui est la quatrième fortune mondiale et qui, entre autres, le propriétaire de l'usine de Lubrizol qui a brûlé à Rouen et qui est quand même un champion de la manipulation. Et lui aussi est rentré finalement comme généreux donateur pour donner des sous à l'OMS, forcément avec un retour, puisque ces gens-là, quand ils donnent d'une main, c'est toujours pour avoir quelque chose en échange. Donc on voit là, c'est en tout cas ce que vous développez, les puissances de l'argent avec cette vaccination qui est pour le moins problématique en termes de résultats, c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Alors, il y a une autre question qui tombe tout de suite en évidence, puisqu'il y a le brevet sur les vaccins, si tant est qu'ils soient efficaces, bien sûr. Il y a la privatisation de l'hôpital, il y a l'industrie pharmaceutique qui est finalement assez énorme, c'est le taux de profit le plus important. La pharmacie, l'industrie pharmaceutique devant l'industrie de l'armement et devant le pétrole. Est-ce qu'on peut dire que finalement la santé, l'hôpital, la pharmacie devraient être des biens publics? Et est-ce qu'on peut constater qu'on s'en éloigne ou qu'on s'en approche?
Oui, je dirais que ça c'est la grosse faute originelle, c'est qu'on ait mis les médicaments, qu'on ait considéré les médicaments comme un bien de consommation, comme les autres, comme vendre des Mars ou vendre des vacances. On vend des médicaments. On pensait à ce moment-là, je pense un peu naïvement, mais ça arrangeait très bien certains, que ça allait s'autoréguler, c'est-à-dire que les gens n'allaient pas demander qu'on leur prescrive des médicaments pour leur plaisir, quoi. On s'est dit, non, on prend un médicament quand on est malade. Mais l'industrie pharmaceutique a développé une stratégie géniale, d'abord de faire croire à toute une série de gens qui se sentaient très bien qu'ils étaient malades, pensons au cholestérol et même à l'hypertension pour énormément de gens. C'est vraiment une super arnaque où on est parvenu à proposer un médicament préventif qui a fait que plus aucun médecin ne s'est préoccupé de modifier la diététique et l'hygiène des patients. C'est beaucoup plus facile de faire une petite ordonnance avec un médicament. En plus, on est certain que les gens ne vont jamais guérir puisqu'ils devront revenir tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour refaire une ordonnance. Donc, ça faisait bien l'affaire des médecins, ça faisait bien l'affaire des vendeurs de médicaments, mais c'est tout à fait aberrant sur le plan de la santé. Quoi. La santé, ça commence par l'hygiène et par la nutrition et pas par la prescription de médicaments. Donc, je pense que ça a été la source de l'enrichissement faramineux de ces industries pharmaceutiques. Elles sont devenues toutes puissantes et petit à petit, comme elles faisaient très intelligemment du sponsoring de toute une série d'activités médicales, petit à petit, elles sont devenues, ont tenu les rênes de toute la recherche en biologie et de la recherche clinique. C'est-à-dire que toutes les études sont finalement pilotées avec, derrière la tête, l'idée de faire du profit. Et donc, quelqu'un, je raconte toujours ça, quelqu'un qui aurait trouvé un traitement génial à base d'une plante ou avec de l'homéopathie ou avec n'importe quelle thérapie parallèle, il n'aura nulle part sa place dans tout ce qui est sponsorisé par les firmes pharmaceutiques, c'est-à-dire tous les gros congrès médicaux, toutes les réunions de médecins, puisque eux s'arrangent toujours pour financer les petits fours et les boissons dans ces trucs-là, si ce n'est pas des gros repas. Donc, on ne se préoccupe plus vraiment de la santé des gens, on se préoccupe de faire des affaires à Big Pharma. C'est aussi simple que ça.
Donc de faire de l'argent, et pour faire de l'argent avec la santé, il faut ne pas avoir d'obstacles sur sa route, et les obstacles sur la route, il y en a quand même. Il y a les baptisés complotistes, donc c'est un terme qu'on a quasiment inventé pour la circonstance. Dans votre livre, vous citez un certain nombre de scientifiques, de médecins célèbres qu'on a cassés, enfin qu'on a essayé de casser par rapport à leur image, y compris des gens qui ont eu des prix Nobel, donc vous en citez quelques-uns, vous pouvez peut-être nous en dire un mot, puisque finalement, le but de la manœuvre, c'est qu'il n'y ait aucune voix contradictoire sur cette question des politiques de santé. Je rappelle que à la suite de la précédente crise sanitaire, À l'Assemblée nationale et au Sénat, il y avait un rapport qui préconisait un certain nombre de choses, dont par exemple le fait de ne pas vacciner une fois que la pandémie était là, mais avant, et en disant que ça ne servait à rien. Donc toutes ces préconisations qui ont été réalisées lors des précédentes crises sanitaires n'ont pas été respectées. Et maintenant, on nous sort des complotistes, des gens qui seraient des gens négatifs et qui feraient en sorte de casser finalement le message divin de notre gouvernement, et pas seulement le nôtre d'ailleurs, en matière de prévention et de lutte contre la pandémie. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces soi-disant complotistes ?
Mais il faut bien savoir que le premier qui a introduit l'idée de complotisme, c'est Peter Daszak, c'est un virologue américain qui a travaillé avec Shi Zengli, c'est la virologue de Wuhan, et encore un troisième qui s'occupe de tout le financement de la virologie aux USA. Et il a employé ce terme pour désigner ses collègues qui osaient défendre l'hypothèse que le virus de la Covid s'était échappé du laboratoire de Wuhan. Or, j'ai examiné la chose sur toutes les coutures, dans tous ses détails génétiques et autres. Cette origine du virus sorti d'un laboratoire, elle est évidente. Et il faut être d'une mauvaise foi totale et une méconnaissance, je dirais presque complète, de la génétique pour soutenir la thèse opposée. Donc, des autorités scientifiques très bien placés dans la distribution des fonds à tous les centres de recherche, ont pris une position intenable en traitant les autres de complotistes, sachant très bien, ça avait déjà été essayé dans de tas d'autres circonstances, que traiter des gens de complotistes, ça leur fait peur et ils n'ont pas envie d'avoir cette étiquette-là. Mais donc, les premiers qui ont traité certains de complotistes, c'est eux-mêmes qui ont ourdi le complot, c'est-à-dire une entente entre toute une série de gens, une entente secrète entre toute une série de gens, pour étouffer un scandale d'État, un potentiel scandale d'État. Donc, c'est toujours le même processus. On continue, nos autorités continuent à traiter toute une série de gens, et c'est un nombre incroyable de gens. Plus j'ai avancé, plus j'ai cherché, plus j'en ai trouvé. Ils les traitent de complotistes, pour les discréditer aux yeux du public. Alors que c'est eux-mêmes, je parle de nos hommes politiques et nos autorités ordinales et nos autorités scientifiques, qui complotent en quelque sorte, c'est-à-dire qui suivent l'agenda de Davos, qui est l'agenda constitué par les gens les plus riches de la planète, qui se rencontrent tous les ans à Davos et qui invitent les politiques à venir parler, à venir faire connaissance de tous ces êtres supérieurs que sont ces milliardaires du commerce. Donc pour moi, le terme de complotiste doit être retourné. Ceux qui disent que nous sommes des complotistes, ce sont eux-mêmes qui complotent, et ils complotent contre la démocratie. Il faudrait qu'on en prenne conscience, quoi.
Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme de complot ou de manipulation, mais une question que j'aurais peut-être dû vous poser auparavant, c'est le bilan humain en France, puisqu'on nous a sorti 129 000 morts à fin 2021 et à peu près 140 000 maintenant. Moi, j'ai fait les comptes par rapport aux statistiques officielles de l'INSEE, je ne retrouve pas du tout ce chiffre-là. Je retrouve beaucoup moins. Et on nous a menti aussi, d'après ce que j'ai pu constater, sur la mortalité, puisque d'un point de vue statistique, on observe pratiquement rien avant 70 ans en termes de mortalité sur le Covid. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non, de ce côté-là aussi, le bilan humain n'a pas été exagéré pour précisément, votre bouquin s'appelle La pandémie du mensonge et de la peur, donc faire peur à des fins de base politique, voire même, on peut le penser, pour l'utiliser jusqu'aux élections présidentielles. Est-ce que je me trompe en disant que finalement on a volontairement exagéré finalement, les morts sur cette pandémie, pour la France en tout cas.
Ça, il n'y a aucun doute possible. L'exagération a été voulue. On a des collections de témoignages prouvant qu'on a donné des incitants dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, pour augmenter le nombre, soi-disant, de décès et, soi-disant, de cas de Covid. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, les chiffres qu'on avance, et même si on prend ces chiffres, en fait, si on les ramène à notre échelle, il faut se rendre compte que ces 128 ou 140 000 morts depuis le début de la Covid, ramenés à une population de 10 000 habitants, qui est la population d'une petite ville, ça veut dire le nombre de gens qu'on peut connaître, ça fait un décès inquiétant, je veux dire en dessous de 70 ans, par an. Ça veut dire que ce n'est pas du tout une catastrophe, une pandémie où les morts jonchent les rues. On se trouve avec un mort par an pour 10 000 habitants.
Donc exagération à des fins politiciennes et pour faire peur, c'est certain. Donc on va s'arrêter là, on voit que le sujet est vaste et ça nous donne, en tout cas moi ça me donne l'occasion de venir dimanche prochain à la guinguette de la plage à Saint-Antonin à 15h. Où Jean Steven présentera donc son livre « La pandémie du mensonge et de la peur » aux éditions Augustin de Livoix, pour précisément qu'il nous explique en détail ses recherches là-dessus et qu'il puisse répondre à toutes les questions. Voilà, je remercie Jean pour être venu jusqu'au studio pour nous avoir donné son point de vue sur la pandémie, un point de vue particulièrement travaillé et recherché pendant plusieurs mois. Je rappelle qu'il sait quand même de quoi il parle puisqu'il a été médecin pendant toute sa carrière. Merci Jean.
Merci Philippe.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.